Comment? Comment?
Come on.
Come on! Come on!
Une série de Radio Panique sur les communs.
Come on! Come on.
Bruxelles, ruisselle, les choses de l'eau, avec Dominique Nalpas.
Cette histoire de marais est très ancienne. Certainement que Bruxelles s'est construite à cet endroit où on pouvait faire un passage, mais ça, c'est plein de villes dans le monde qui sont nées comme ça. Ce qu'on peut rappeler, en tout cas, c'est qu'il y a eu un phénomène anthropique là-dessus, qui est la construction par les êtres humains de tous ces éléments qui ont pu faire qu'on tire une production de tout ça. Et ça, c'est quand même assez important. Et notamment si on sait en plus que tous ces producteurs économiques, on dirait avec ces termes-là aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque ça ne se disait pas comme ça, mais les meuniers, les maraîchers, les pisciculteurs, etc., se rencontraient pour discuter du régime d'eau de leur vallée pour que chacun puisse profiter de cette eau et ne pas se disputer. Il y avait quelque chose comme un ferment des communs. Sans doute qu'il y avait des disputes, sans doute que ce n'était pas aussi clair que ça, mais il y avait quelque chose de ça. À partir du 19e siècle, tout se transforme profondément et vient l'hygiénisme qui vient dire « mais cette rivière maintenant est porteuse de maladies et il faudra la couvrir, il faudra la voûter ». Et la plupart des ruisseaux bruxellois sont devenus les collecteurs d'égouts principaux de la ville. Mais c'est à la même période aussi qu'on a recouvert les sols. Ce n'était pas seulement l'eau qui était considérée comme une nuisance, mais aussi le sol était porteur de miasmes. Et donc, on a commencé à paver, on a commencé à... Donc, en fond, on voit une profonde transformation du paysage urbain avec la ville qui efface la géographie même par des ponts, par des grands ouvrages où on déplace des terres, de remblais, etc. L'inspecteur voyait une sorte d'urbanisme de l'époque, disait on va jeter les montagnes dans les rivières pour dire combien à ce moment-là on pensait que l'humain était dominant et devait continuer de se libérer de la nature et de tous ces éléments dont on était encore l'objet d'un certain joug, disons. Et donc on était puissant. Alors, il y a eu une prise de conscience de la question de l'eau autour de la place Laget, qui date des années 2000, début des années 2000, dans un gros conflit qui a opposé les habitants avec l'institution publique et les opérateurs de l'eau sur la construction d'un grand bassin d'orage. Les habitants avaient peur des nuisances qu'allaient apporter les travaux de construction. Et du coup, un certain nombre ont dit non au bassin d'orage. Et puis d'autres se sont posé la question, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer autre chose qu'un bassin d'orage pour réduire les inondations? Et c'est à ce moment-là qu'a été pris cette conscience que, mais en renouant avec l'eau dans le paysage urbain, c'est-à-dire en lui permettant de renouer avec ses cycles, par exemple par l'infiltration, l'évaporation, l'utilisation du végétal pour l'évapotranspiration, etc., on recrée un cycle vivant de l'eau dans la ville, là où il avait disparu. Ça a été une première crise politique où l'institution publique a commencé à prendre conscience qu'elle était au bout de son chemin vers toujours plus de tuyaux, des tuyaux toujours plus grands, etc. Toujours cette inconscience de l'eau, disons. Puis il y a une deuxième crise qui a été celle de la station d'épuration Nord en 2010, en hiver 2010, je crois, si mes souvenirs sont bons, et où clairement Veolia, l'entreprise multinationale qui co-gère dans un partenariat public-privé avec la région cette station d'épuration, eh bien, a décidé de rejeter les eaux non épurées dans la Seine immédiatement. C'était un chantage que nous avions lu de cette sorte, en tout cas, un chantage environnemental vis-à-vis de la région, dans une perspective, fort probablement, on peut l'imaginer comme ça, de décrédibiliser les pouvoirs publics dans leur capacité à gérer l'eau et donc petit à petit faire avancer la privatisation du service de l'eau au sein même de la ville. les collectifs d'habitants issus du conflit autour de la place Flaget, qui continuait d'exister, a émis cette idée-là et a appelé à des états généraux de l'eau à Bruxelles pour mener une réflexion approfondie et donc continuer cette entrée de l'eau en politique. Il y avait évidemment l'eau publique, mais on a utilisé aussi le thème d'eau bien commun, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas seulement du ressort de l'État et de l'institution publique, mais aussi de nous tous. Les États généraux de l'eau à Bruxelles ont commencé à exister, c'est-à-dire un collectif de gens continuent à s'intéresser à ces questions et ont mené un certain nombre de projets voulant intéresser les habitants à leur environnement et notamment par la relation à l'eau. C'est donc plus tard que Brusseau est né d'un partenariat des EGEP, des États généraux de l'eau à Bruxelles, mais aussi dans une relation avec des centres de recherche comme Hydre de la VUB, comme Lieu de l'ULB, qui s'occupe de l'urbanisme et de l'histoire, comme la Cambre Architecture, enfin un certain nombre de chercheurs, et puis aussi d'architectes et de techniciens de l'écologie urbaine, disons, et du diagnostic. Et donc, nous sommes 7 partenaires au total. Alors, je nomme quand même ceux-là. C'est Archipel, qui est un collectif d'architectes. C'est Latitude, qui est un autre collectif d'architectes. Et puis, vous avez Écotechnique, qui, eux, ont vraiment une connaissance du terrain et du sous-sol, enfin, des tuyaux même de Bruxelles, et qui les connaissent à fond. Et donc, c'est cet ensemble-là de partenaires qui a imaginé... Alors, voilà un nouveau terme qui est celui de communauté hydrologique, c'est-à-dire des collectifs d'habitants, un territoire pertinent en termes de gestion de l'eau, donc des habitants sur ce territoire, et ces scientifiques et techniciens, ensemble, menant une réflexion pour connaître autrement notre territoire, pour faire surgir les savoirs du territoire et voir dans quelle mesure, hydrologiquement, ils ont des capacités à répondre à ces questions d'inondation, pardon, vertueuses, en créant du paysage, du bien-être et de l'intéressement. Alors, il faut maintenant que nous décidions ensemble. Et là, c'est un point qui est très intéressant, c'est qu'avec Bruxelles Environnement, eh bien, nous sommes en train de construire un espace de co-création où la théorie que nous avançons, entre guillemets, en fait, cette proposition que nous avançons, puisse rentrer en dialogue avec les propositions institutionnelles des opérateurs de l'eau. Et ce serait la première fois qu'à Bruxelles, alors, nous aurions, sur la taille d'un bassin versant, enfin d'un sous-bassin versant, comme celui qui va de l'altitude 100 à la Seine, c'est déjà plusieurs milliers d'habitants, hein, nous pourrions construire un espace de dialogue où tous ces éléments entrent en discussion, en coopération, pour créer les meilleures conditions de vie, c'est-à-dire diminuer les inondations au coût le moins élevé, mais en détruisant pas des vies sociales par ailleurs, etc. Et donc tout ça, c'est un espace de dialogue co-créé qui est en potentielle gestation. Cette notion de valeur qui est devenue centrale dans notre réflexion maintenant, enfin on en a pris conscience véritablement, lorsqu'on a pu opposer notre action avec habitants hydrologues dans le cadre de nos communautés hydrologiques face à une autre manière de faire qui avait eu lieu précédemment, où les États généraux de l'eau et la commune de Forêt avaient demandé, il y a quelques années déjà, de faire une étude hydrologique sur les hauteurs de Forêt, voir s'il était vraiment nécessaire, déjà à cette époque-là, de construire un bassin d'orage. Et vive à quoi l'opérateur de l'eau en charge de ces questions, nous a renvoyé une étude, une expertise donc, qui dit que le bassin d'orage est absolument nécessaire parce qu'il avait pris un certain nombre d'éléments en considération et parce qu'il est porté par des valeurs, celles de l'ingénieur comme celle de la technique qui va répondre aux problèmes, celle du pouvoir de l'argent aussi, parce qu'il faut quand même des grandes concentrations d'argent pour y arriver, et donc des moyens qu'il pouvait avoir et obtenir par rapport à ça, etc. Donc il y a tout un système de valeurs qui est porté dans ce type de décision, qui est issu de la production de la ville du 19e siècle. Et aujourd'hui, avec les éléments d'écologisation qui sont des intentions aussi que des êtres humains portent par rapport à leur environnement, en faisant exister d'autres éléments que des tuyaux, portent aussi des valeurs. Et nous avons pu remarquer, avec nos hydrologues et nos habitants qu'on pouvait trouver des solutions qui diminuent les inondations de manière très sérieuse et très rigoureuse, au même titre qu'un bassin d'orage, mais en ne construisant pas de bassin d'orage, en créant ce qu'on appelle les nouvelles rivières urbaines, c'est-à-dire un certain nombre de dispositifs décentralisés sur l'ensemble du versant, sur l'ensemble du vallon, si vous voulez, de la pente de la vallée, qui permettent de retenir l'eau, de la ralentir, de la faire s'infiltrer, de l'évaporer. Et ça permet, cette solution-là, d'une part, de ne pas détruire le jardin essentiel par un gros ouvrage qui est le bassin d'orage qui pourrait être construit à cet endroit, ce qu'avait posé comme hypothèse Vivacqua. Mais aussi, on découvre qu'un accident de l'histoire, un accident des subprimes, un accident du capitalisme, on va dire, qui a fait que le marais Wills existe, peut devenir, lui, une sorte de zone de rétention pour l'eau de pluie. Et donc, nous avons une espèce de chassé-croisé extraordinaire là, qui, en reprenant les éléments tels qu'ils sont, avec l'adjonction du jardin essentiel, qui est un lieu de commun production d'habitants, avec une vraie vie qui est amenée là, avec des éléments non humains, comme les plantes, le sable, etc. Enfin, il y a quelque chose qui se passe qui est extraordinaire et qui a un lieu de vie sociale. Et le marais Wills, idem, eh bien, il y aurait une sorte de mise en lien avec les nouvelles rivières urbaines entre, pour gérer une eau qui est soit plus écologique, on va dire, plus vivante et amenant de la joie, évitant ainsi d'une part la financiarisation excessive par des gros outils techniques et d'une part, et d'autre part, la spéculation sur le terrain du marais Wills. Donc y a à partir de là, on voit bien, c'est pas quelque chose d'idéologique, c'est quelque chose qui peut être vraiment construit autrement. C'est une décision de construire autrement. On peut le faire. Et les faits, attestés par les scientifiques, montrent que c'est possible aussi, autant qu'un bassin d'orage. L'eau toute seule ne va pas pouvoir tout changer. C'est une entrée en matière, mais il y en a plein d'autres. Ce qui est important, c'est un droit à la ville à régénérer à partir d'un tas d'entrées en matière et un droit au commun à partir de là aussi qui peut nous amener à vraiment imaginer une ville de demain nettement plus soustraite aux forces du capital, aux forces des intérêts privatisés, etc. Donc c'est une entrée en matière parmi d'autres et j'ose espérer qu'elle fera un commun des communs.
Come on.
Commun.
Come on.
Une série de Radio Panique sur les communs. À retrouver en podcast sur www.radiopanique.org.